Hi, how are you?
Je suis français.
But how are you? Can you speak in English?
Thank you very much.
No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Tori et Jérémy Michel.
Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la MVP de la rédaction, la capitaine du FC Expat, Caroline Tori. Comment ça va Caroline?
Ça va bien Jérémy, et vous?
Eh bien écoutez, ça va pas mal, mais Caroline, quel joueur a été assez fou aujourd'hui pour répondre à notre invitation?
Alors aujourd'hui, je vous propose d'allier football et soleil, c'est quand même une doublette gagnante à mon sens. Direction Ibiza où nous attend Baptiste René, gardien de but de l'Union Deportiva, le club de 3e division espagnole. Baptiste René, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous les deux, merci à vous.
Baptiste, vous êtes né à Romans-sur-Isère en 1990 et si l'on doit retenir quelque chose de votre CV, déjà bien fourni, c'est que vous avez un club de cœur, un point d'ancrage, c'est Dijon. 8 saisons en tout et plus de 230 matchs disputés avec le club. Vous êtes également passé par Martigues, Lorient, Toulouse ou Nîmes, ainsi que par l'équipe de France Espoir. C'était entre 2011 et 2013. Baptiste, qu'est-ce qui vous a décidé à mettre le cap sur Ibiza?
Bah en fait, je sortais d'une à titre personnel et collectif, on sortait d'une saison très compliquée avec Dijon où je me suis posé pas mal de questions quant à mon avenir, pardon. Et en fait, j'avais envie soit de découvrir l'étranger, soit d'arrêter le foot de haut niveau parce que mentalement j'avais été très touché par ce qui s'était passé, la relégation. Et voilà, après, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Elle a été un peu tardive, ça a été aux environs des mi-octobre. Et le discours et le projet du club m'ont séduit et m'ont plu. Donc voilà, je me suis engagé avec la Woodé Ibiza jusqu'à la fin de saison en espérant aller un peu plus loin.
Oui, vous comprenez que cela ait pu surprendre malgré tout?
Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on parle d'Ibiza, forcément, on parle pas de foot, on parle pas d'autre chose, on parle que de la fiesta. C'est l'île qui est la plus connue au monde pour faire la fête. Mais voilà, après, je sais que je me doutais que ça allait faire parler. Mais après, moi, je me suis pas arrêté à ça. J'avais eu la chance de venir en vacances ici avec ma copine au mois de juin pour découvrir l'île, justement. On n'en est pas très très bien profité parce que moi j'étais dans une période où j'étais pas bien mentalement, donc voilà. Après c'est un projet qui est ambitieux, un président qui était l'ancien président de Valencia en Espagne, donc un club qui est plutôt bien réputé ici en Espagne et qui veut monter en deuxième division dès cette saison et puis à moyen terme aller voir un peu plus haut. Donc voilà, c'est ce genre de projet que je recherchais, un projet ambitieux où aussi on va pas se le cacher, hein, où il fait bon vivre ici, on a beaucoup de soleil et voilà, je suis très content d'avoir signé ici.
Alors il fait bon ici, vous nous dites Baptiste, mais est-ce que vous avez découvert autre chose que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la fête à Ibiza? Qu'est-ce qui depuis votre arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose qui justement sort un peu des sentiers habituels des discothèques, plages et farniente?
Paradoxalement, tout ce qui est au niveau de la fiesta, de la fête et tout, j'ai pas encore découvert, je n'y suis pas allé. Je me concentre essentiellement sur mon boulot, sur le fait d'être footballeur et d'être le plus performant possible. Après, moi, ce que je retiens d'ici, c'est les paysages, c'est la vie, les gens en général aussi, parce que on est dans une région du monde où je sens pas les gens stressés. Pour moi, c'est très très sécure. J'ai pas d'appréhension à sortir mon chien le soir à 23h dans la rue. C'est plein de petites choses comme ça qui me font me sentir bien ici.
Bon, c'est chouette. Et donc, les Espagnols d'Ibiza sont aussi très sympas.
Ouais, franchement, honnêtement, super gentils. Bon, en plus, on est arrivé ici avec ma copine. On parlait pas un mot espagnol. Ou du moins, il nous restait quelques restes de, du collège. Donc voilà, on fait l'effort aussi d'aller vers eux, d'apprendre la langue pour pouvoir avoir se faire des amis aussi, et puis pour pouvoir discuter avec les gens, que ce soit dans les magasins, dans la vie de tous les jours. Donc c'est une expérience qui est hyper enrichissante à titre personnel.
Et dans le vestiaire aussi, j'imagine que vous êtes le seul français, hein, si je ne me trompe pas. Donc,
ouais.
La langue, c'est voilà, vous progressez en espagnol, vous parlez aussi avec les mains, je ne sais pas comment ça se passe.
Au début, je parlais un peu en anglais, parce que j'étais meilleur en anglais qu'en espagnol. Et mon niveau d'anglais n'était pas très haut, donc je vous laisse deviner mon niveau d'espagnol. Et j'avais la chance d'avoir un joueur africain qui est ici et qui parle français. Donc voilà, il m'a un peu aidé au début, mais voilà, je me suis débrouillé tout seul avec mon anglais, avec mon espagnol, avec des gestes des mains. Enfin, petit à petit, j'ai réussi à me faire comprendre. En plus de ça, on prend des cours d'espagnol. On y va deux à trois fois par semaine en fonction des entraînements et des voyages. Donc voilà, maintenant, j'arrive à me faire comprendre. J'ai un peu plus de mal à comprendre les gens parce que suivant leur région d'origine, ils parlent plus ou moins vite. Donc parfois, c'est compliqué. Donc je leur demande de répéter ou de parler plus tranquillement. Mais voilà, en règle générale, en 3-4 mois, on a bien progressé. Et maintenant, on peut se faire comprendre. Déjà, c'est bien.
Baptiste, vous avez déjà connu tout ce que la carrière de footballeur peut produire. Le pire comme le meilleur de la Ligue 1, aux blessures, aux relégations. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours qui n'est pas fini, bien sûr, mais jusque-là ?
Je veux retenir le positif, forcément, parce que le négatif, on essaye de le mettre de côté, même si certaines déceptions sont ancrées en moi et n'ont toujours pas été digérées. Mais je retiens avant tout la montée qu'on a pu faire avec Dijon, c'était en 2015, il me semble, en Ligue 1, où on avait un super groupe, une super ambiance dans l'équipe, et on avait un super staff également, un super président. Enfin, il y a tout qui roulait parfaitement. Et aussi, je dirais, les maintiens qu'on a pu faire avec Dijon, parce qu'on était un petit club, un club qui n'avait pas l'habitude d'évoluer en Ligue 1. Deux années d'affilée, on réussit à se maintenir, la première un peu sur la dernière journée, et la deuxième où on finit 11e, où on a vraiment passé une super saison. Mais aussi, ce que je retiens de ma carrière, c'est d'avoir pu connaître et de m'être fait vraiment des vrais amis dans le football.
Et puis Baptiste, vous n'avez jamais hésité à contacter, à postuler vous-même auprès des différents clubs. Vous n'aimez pas être dans l'attente.
Comment vous savez ?
Parce que je sais beaucoup de choses.
Oui, ça, Caroline, il faut se méfier. Elle a des dossiers sur beaucoup de personnes.
C'est quand j'étais jeune, quand je suis parti à Martigues.
Oui, entre autres.
Ouais, en fait, ça a été un... si vous voulez, j'ai évolué à Valence. J'ai fait trois saisons là-bas. Après, j'ai été dégoûté du foot à cause d'un entraîneur qui nous mettait trop la pression et je trouvais aucun plaisir. À l'époque, Valence, c'était un club pro qui était en Ligue 2 et en National, qui alternait un peu. Et ce coach m'a vraiment littéralement dégoûté du foot. J'allais aux entraînements, j'avais pas envie, j'avais aucune motivation, j'avais même peur. Au match, c'était encore pire, j'avais trop de pression. Enfin, pour moi, le foot c'était entre 13 et 15 ans. Mais le foot, ça doit rester une passion et faut avoir envie d'y aller, faut avoir envie de prendre du plaisir. Et du moment où tu retrouves pas ça, je voyais pas l'intérêt de continuer là-bas. Donc, t'es revenu à Amours-Saint-Eusèbe, le club d'où mes parents sont originaires, d'où je suis originaire également. Et au bout de deux ans, je crois, j'avais un entraîneur qui avait un peu de contact dans le milieu du foot. Il m'a proposé de faire des essais à Nancy par l'intermédiaire d'un agent. Et là, j'ai retrouvé l'envie de d'évoluer un peu plus haut. Donc, même si le retour de Nancy était négatif, l'entraîneur gardien de l'époque, je me souviens, m'a dit que j'avais un niveau qui était très intéressant et que voilà, j'avais rien à envier aux gardiens qui étaient déjà présents sur place. Donc j'avais envoyé des CV un peu dans le sud parce que j'aime bien, voilà, c'était pas loin de chez mes parents, c'était à 2 heures, 3 heures maximum. Il fait bon vivre et Martigues m'avait répondu, j'avais passé un essai et l'essai avait été concluant et voilà comment est partie un peu ma carrière.
Mais vous parlez là du début de votre carrière, mais il y a quelque chose qui me questionne. Comment on devient gardien de but? Alors, est-ce que c'est votre passion du rugby qui vous a amené à continuer à jouer avec les mains, ou il y a autre chose derrière cette, le dernier rempart a quand même une responsabilité très importante dans une équipe. C'est cette direction-là aussi que vous avez souhaité mener dans votre carrière?
Ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout parce que lorsque j'étais toujours à Mont-Saint-Eusèbe, quand j'ai attaqué le foot à 5-6 ans, j'étais joueur de champ, j'aimais bien. Jouer attaquant et ça se passait plutôt bien, et une année il n'y avait plus de gardien, donc je me suis dit tiens, je vais essayer. Et comme j'étais aussi un peu fainéant, j'aimais pas trop courir, je me suis dit c'est la bonne planque d'être dans les cages. En plus je joue avec mes mains comme au rugby, il y a du contact, donc j'ai essayé, j'y ai pris goût, et puis après je suis resté gardien.
Donc cette histoire de responsabilité dans les buts, c'est du fake en fait, c'est plutôt la fainéantise.
Ouais, la responsabilité à 7-8 ans, on n'y pense pas forcément. Maintenant, c'est vrai que tu sais que tu as beaucoup de responsabilités dans l'équipe lorsque tu es gardien de but, et ça me plaît parce que j'aime bien être acteur du match. Je sais que c'est un peu un poste ingrat à double tranchant. Parce que tu peux faire 14 arrêts dans le match, et si à la dernière seconde tu te déchires, les gens vont retenir que ça. Mais à côté de ça, tu peux être entre guillemets le sauveur de ton équipe. Donc, c'est un poste qui me plaît pour ça aussi.
Dans ma jeune carrière, je fus gardien de but, donc je vous comprends tout à fait.
Vous étiez fainéant aussi alors.
J'étais fainéant aussi, c'est pour ça que je parlais de ça. Mais vous étiez attaquant avant, ça vous manque pas de marquer des buts?
Si. Ouais. Ça, par contre, mais j'aime bien l'entraînement. Quand j'ai un peu le temps de faire tirer des coups francs, faire de la finition. Enfin, j'aime bien tout ce qui est... Tout ce qui est un peu contraire à l'éthique du gardien de but.
J'adore. Caroline?
Baptiste, comment vous envisagez la suite de votre carrière? Est-ce que c'est rentrer en France, rester en Espagne? Est-ce que vous avez d'autres pistes?
Non, pour l'instant, honnêtement, mon souhait, c'est de c'est pas de la langue de bois, mais c'est de finir correctement la saison avec Ibiza, et pourquoi pas prolonger ici, parce que en dehors du cadre de vie, je me sens super bien à l'intérieur de l'équipe. Ils m'ont super super bien accueilli, et j'ai envie de continuer ici. Donc on va voir ce que l'avenir me réserve, mais l'objectif, c'est de continuer à Ibiza. Après j'ai pas envie de rentrer en France à l'heure actuelle. J'ai envie de profiter de mon expérience à fond, et pourquoi pas même m'installer ici plus tard pour faire quelque chose qui tourne autour du foot. Ça pourrait être une option qui m'intéresse.
On vous le souhaite. Alors les résultats sont plutôt bons en ce moment à Ibiza, donc ça c'est vraiment une chouette chose. Mais on arrive malheureusement, Baptiste, à la fin du temps réglementaire. Alors j'ai une question dans les arrêts de jeu. Vous évoquiez Nancy, mais est-ce que depuis que vous êtes à Ibiza, vous avez beaucoup plus de copains qui vous disent tiens, on va venir te voir ce week-end?
Ouais, ça attire. C'est vrai que après j'ai la chance d'avoir un cercle familial et un cercle d'amis proches que j'ai depuis avant d'être professionnel. Donc je sais qu'ils sont pas là par intérêt, que ils sont là pour moi, quoi, pas pour le foot. Et mais c'est vrai que quand j'étais à Dijon, il y en avait quand même pas mal qui montaient assez régulièrement. Mais là, le fait d'être à Ibiza, On a dû prendre un calendrier avec ma copine pour marquer qui vient dans les prochains mois, pour s'en souvenir, parce que les réservations vont plus vite que lorsqu'on était à Dijon.
Alors Baptiste, vous pouvez déjà mettre Caroline Ettori et Jérémy Michel dans les prochains.
Allez, ça marche. Je vous enverrai mon calendrier, vous regarderez les dates dispo. C'est un peu comme sur Booking où il y a des dates.
C'est ça.
C'est pareil.
Attention, nous on viendra pour inaugurer peut-être le premier match de l'équipe du FC Expat.
Écoutez, je vous le souhaite. Hein.
Allez, on vous prend avec nous dans les buts. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste Rennet, pour ce bel entretien. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci, c'est gentil.
Jérémy FC, expat, deuxième mi-temps. Nous traversons l'Atlantique, direction Chicago, à la rencontre d'un passionné de sport, normal, il est professeur de PS, mais aussi un passionné de l'Olympique de Marseille, Philippe Audassault. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est avec plaisir.
Vous présidez l'OM Fan Club de Chicago. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter les couleurs de votre club jusqu'aux États-Unis, Philippe ?
Alors, ben, comme beaucoup d'expats, quand on quitte son pays, on quitte aussi sa ville, on quitte aussi ses amis, sa famille et son club. Évidemment, je suis l'OM avec beaucoup de passion. En ce moment, avec beaucoup de difficultés, on va dire, et de peine. Mais voilà, la passion ne nous quittait jamais. Et à force de trouver à la fois des collègues expats, à la fois des bars où ils passent les matchs, etc., on a réussi à créer un petit groupe. Un petit groupe qui, étonnamment, est composé de plus d'Américains que de Français. Et voilà, petit à petit, on a créé notre réseau, on a créé nos propres réseaux sociaux, etc., jusqu'à ce que l'OM crée cette espèce de fan club mondial, et ils nous ont contactés, et c'est avec plaisir qu'on a créé des liens avec eux, qu'on a signé un contrat avec eux pour officialiser ce club, ce fan club Chicago avec l'Olympique de Marseille.
Et en plus, vous avez un camp de base, un repère où vous regardez les matchs, c'est l'AG Hudson's Public House, qui suit vraiment le foot, hein, et pas que l'OM, je crois que la Ligue des Champions est aussi retransmise dans ce bar-restaurant. Est-ce que c'est un lieu où les Français se croisent aussi indépendamment de l'Olympique de Marseille ?
Attends, pardon Caroline, mais pourquoi tu lui parles de la Ligue des Champions ? C'est pour qu'il puisse regarder le PSG aussi cette année, c'est pour ça, hein ?
Alors, je réponds à Jérémy avant de vous répondre. Oui, effectivement, on suit le PSG parce que malheureusement, je dois dire c'est malheureux, hein, mais pour l'instant, notre seul plaisir, c'est de voir le PSG se faire jeter dans la Ligue Champion tous les mois de mars.
Ah, ça y est, c'est parti, on y va, allez, à jamais les premiers, on y va, allez, on y va.
C'est malheureusement notre seule satisfaction de l'année. Non, tout ça pour revenir sur le QG, effectivement, c'est on se faisait des matchs un peu chacun chez soi, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a une vie de famille. Donc, on avait trouvé un premier bar, puis on a changé de bar parce que le propriétaire de ce bar-resto-là est un fan total de foot américain, complètement fanat de la AS Roma. Allez savoir pourquoi, je lui ai demandé plusieurs fois, il n'a pas eu aucune réponse logique. Et étant fan de la AS Roma, lui, à l'étranger, il comprend tout à fait notre passion et notre envie de se regrouper autour de passionnés. Donc, c'est un bar, en fait, qui regroupe le club de supporters de Liverpool, le club de supporters du Real Madrid, le club de supporters du Boca Junior. Donc, en fait, quand on est là-bas, que les matchs se passent un peu tous en même temps, il y a une ambiance de ouf, c'est vraiment génial. On commence un peu à connaître tout le monde. Et je dois dire que du coup, non seulement on a nos supporters marseillais de base, mais on recrute d'autres supporters d'autres pays parce qu'ils nous voient complètement timbrés pour une équipe qui joue avec un niveau de pire que MLS. Et ils se demandent comment on fait pour continuer à supporter une équipe comme ça d'aussi loin avec un tel niveau de jeu. Mais voilà, ils savent qu'en fait, quand on a une
passion,
on ne peut pas.
Je me pose la question, hein, Philippe. Hein, comment vous faites encore pour supporter l'Olympique de Marseille alors que vous êtes à Chicago ?
On tombe dedans quand on est petit, puis on ne peut plus jamais lâcher. Ça, c'est, on a le sang bleu et blanc, et puis voilà, on ne lâchera pas. On les supportera, on les suivra, quoi qu'il arrive. Et vous le savez très bien.
Oui, bien sûr, on le sait. Et vous parliez tout à l'heure justement de la relation que vous aviez avec le club, que vous aviez signé une convention avec l'Olympique de Marseille. On a l'impression qu'en ce moment, l'OM Nation, comme ils avaient appelé cette expansion de fan club à l'étranger, a moins bonne presse, on va dire, au niveau du club, ou en tout cas, on a l'impression qu'il y a un détachement. Quand on va sur le site internet de l'OM, par exemple, la liste des fan clubs à l'étranger a disparu. Alors, est-ce que c'est juste un problème informatique ou alors il y a un peu plus de détachement ?
Alors non, je pense que c'est volontaire. C'était un système qui avait été mis en place par l'administration de Jacques-Henri Hérault, qui avait très, très bien fonctionné. Il y avait une dynamique qui était exceptionnelle. On avait même un groupe WhatsApp, qu'on a toujours d'ailleurs, à partir duquel on communique avec tous les fan clubs du monde entier. Et puisque Hero est parti, je pense que Longoria s'est recentré sur d'autres priorités. Puisque, évidemment, on a signé une convention avec l'Olympique de Marseille, je pense qu'on est toujours officiellement rattaché à eux, puisqu'on n'a toujours pas reçu de lettre cassant cette convention. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'intérêt qu'ils portent à cette... Ça ne s'appelle plus OM Nation, ça s'appelle OM Fan Club, elle n'est plus le même, l'intérêt qu'ils y portent n'est plus le même que ce que ça pouvait être par le passé sous l'administration Hérault. qui est dans l'absolu pas très grave, parce que honnêtement, enfin, nous, on n'a pas fait ça pour une signature avec l'Olympique de Marseille, on a fait ça pour un peu connecter tous les groupes de supporters du monde entier et créer peut-être une dynamique aussi autour de l'OM ailleurs qu'à Marseille, et montrer que l'OM n'existe pas qu'à Marseille, mais l'OM existe de par le monde, et que malgré les résultats, malgré le jeu assez pauvre en qualité.
Ne vous faites pas mal.
C'est une... Non, mais parce qu'on souffre, tout dimanche.
Mais non, d'avoir une charnière centrale, Mbemba et l'Argentin dont le nom m'échappe, là, je trouve que c'est quand même...
Ouais, mais moi aussi, c'est pas que le nom qui m'échappe. J'aimerais bien que le joueur m'échappe aussi, mais... et qu'il s'échappe d'ailleurs. Non, voilà, donc voilà, du coup, l'intérêt de cette démarche a surtout été de nous connecter tous ensemble et du coup, on garde quand même contact avec l'Olympique de Marseille. Je sais qu'il y a plusieurs groupes qui se déplacent souvent au stade, qui sont invités, qui Longoria les rencontre. Donc voilà, il y a toujours une dynamique. Nous, on communique tous les jours. Je vous cache pas que sur le groupe WhatsApp, là, ça n'arrête pas tous les jours. Et finalement, ça nous fait vivre autour de l'OM, ce qu'on n'a pas eu pendant des années parce que c'était très local. Et c'est très sympa de pouvoir échanger sur son club. Malgré les péripéties qui quotidiennes.
Alors, vous me faites peur sur quelque chose, Philippe, parce que comme le disait Caroline en introduction, vous êtes professeur d'EPS au lycée français de Chicago. J'imagine que vous parlez football avec vos élèves, mais vous ne les embrigadez pas quand même pour qu'ils deviennent des supporters de l'OM. Vous restez objectif tout de même, j'espère.
Alors, il y a le sujet passion et le sujet raison. La passion fait que j'en parle de moins en moins parce que... comme dans beaucoup de milieux d'expatriés, il y a beaucoup plus de Parisiens qui s'expatrient que de Marseillais. Donc, j'ai beaucoup plus de personnes autour de moi qui sont supporters du PSG. Je suis obligé d'avouer la supériorité du PSG en ce moment. Ceci dit, en termes de passion et de supporterisme, on est encore bien devant et loin devant.
Philippe, en tant que fada de Chicago, vous faites la différence entre l'équipe, les joueurs, les supporters et la direction du club qui sera à part.
Ouais, bah évidemment. Alors, quand on grandit à Marseille, quand on va au Vélodrome depuis tout petit, en fait, on se rend compte de la puissance de ce club, de la puissance de la passion que ça génère autour d'un club, dans une ville, dans une région, parce que c'est assez unique. Et en fait, c'est une grande famille. On se rend compte, c'est une grande famille. Et quand on passe, moi, j'ai passé plus de, on va dire, je suis pas allé quand je suis né, mais j'ai commencé à 5 ans à aller au Vélodrome jusqu'à je parte aux US. Et encore, je rentre régulièrement pour aller voir des matchs. Et c'est une grande famille qui les supporters de l'OM sont, quelque origine que ce soit, quelque origine sociale, culturelle. Ça reste quelque chose d'assez unique et donc les supporters sont à part. Oui, on met les supporters à part parce qu'on a cette passion, cet attachement au club qui est unique et que beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs ou les dirigeants en fait n'ont pas. Donc c'est pour ça que bien souvent en fait et c'est pas forcément objectif, mais on se reconnaît pas, on se retrouve pas dans certains dirigeants, dans même certains joueurs qui n'ont pas cet attachement ou en tout cas qui ne le montrent pas au maillot, à l'amour du club parce que c'est une ville, une région qui ne vit que autour de l'OM. Et donc, quand on est passionné, quand on est complètement, comme vous dites, fada, on a du mal à accepter que certains viennent là et profitent de la renommée et de l'enthousiasme des supporters, la renommée du club, l'enthousiasme des supporters, juste pour leur propre, on va dire, intérêt.
On reste sur les supporters, Philippe, on arrive à la fin de notre entretien. On a trois questions pour vous. Philippe, le joueur de l'OM qui vous a le plus marqué?
C'est Magic Chris qui m'a fait rire quand j'étais ado. C'était parce qu'il avait tout. Il avait le charisme, il avait le talent, il avait la classe. Il était élégant à avoir joué. Il était sympa avec tout le monde. Et...
Ah, Chris Waddle.
Ouais, c'est pas le meilleur joueur qu'on ait eu à l'OM, mais on va dire qu'un point de vue sentimental, c'est Magic Chris. Ouais.
Je vous comprends. J'aimais beaucoup ce joueur. Le match de l'OM qui vous a fait le plus vibrer?
J'étais le 26 mai 93. J'étais à Munich et je me rappelle encore de chaque seconde, notamment deuxième mi-temps où je regardais ma montre. On va dire toutes les minutes, en espérant qu'il y avait 10 minutes qui étaient passées, mais c'était qu'une minute qui était passée. Et je me revois encore avec le cœur qui battait tellement fort que je pense que le maillot vibrait au rythme de mon cœur. Et donc, ouais, c'est un moment exceptionnel dans une vie de supporter, même une vie d'homme, quoi. C'est des sentiments que j'ai plus jamais vécu, quoi. C'est extraordinaire.
Je comprends aussi. Dernière question, Philippe, l'Arabie Saoudite, doit-il racheter ou non l'Olympique de Marseille?
Ça, c'est la question piège. Moi, je suis anti-foot business tel qu'il est en train de devenir maintenant, parce que je pense que l'argent à outrance a cassé le foot, a cassé la passion que générait le foot. Je suis une grande nostalgie des années 80, 90, voire début des années 2000, où il y avait beaucoup moins de pognon dans le foot, où il y avait beaucoup plus d'équilibre en Europe parmi les clubs, et donc beaucoup plus de, on va dire, de compétition, de compétitivité entre les clubs. Aujourd'hui, voilà, tout se partage entre 8 clubs les plus riches. Donc, d'un point de vue hyper égoïste, ben pourquoi pas, qu'on ait des milliards comme les autres, qu'on arrive à gagner comme les autres, pourquoi pas, mais d'un point de vue personnel, je suis contre ça.
Et on va se retrouver maintenant dans la même tribune, Philippe. Alors, peut-être pas celle du Vélodrome, mais en tout cas pour supporter le football, le FC Expat, si vous en êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une passion du football qui va au-delà d'un maillot. Hein. Donc, vous pouvez maintenant venir nous encourager avec le FC Expat.
Allez, pas de problème, je vous suivrai avec grand intérêt.
Allez, et spécialement pour vous, Philippe, hein, on n'oublie pas l'essentiel. Allez, je le fais avec vous. 1, 3, 4, aux armes. Nous sommes les Marseillais.
Et oui, et nous allons gagner.
Allez.
C'est parfait.
Merci, Caroline. Ciao, Philippe. À bientôt. Pour
ciao, ciao. Allez, l'OM.
Allez, ouais. Allez. Je l'ai dit, on a coupé ou pas? Allez, l'OM. Et après, et rendez-vous pour un prochain FC Expat. Ciao, ciao.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.